les jardinières.
Les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Avant de mettre les mains dans la terre, prenez le temps d'écouter les bons conseils de notre spécialiste. Et il est prêt à répondre à vos appels téléphoniques, mais pas que. C'est Raphaël,
j'ai
bonjour.
Eu très peur que vous me disiez que ce soit moi qui devais répondre aux commentaires, aux questions de nos auditeurs. Non, bonjour tout le monde.
On va laisser ça à notre spécialiste ce matin, c'est Cathieu Racine, jardinière à Delémont. Bonjour Cathieu.
Bonjour.
Merci Cathieu d'être avec nous ce matin et c'est parti pour une heure de jardinage.
7h, 8h, les jardinières.
Dans quelques minutes, Cathieu Racine à Delémont, jardinière à Delémont, voilà, nous parlera des auxiliaires, de véritables alliés pour notre potager. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, revenons sur ce nuage de sable du Sahara qui a jauni notre ciel et nos voitures aussi.
Cathieu, surtout nos voitures.
Est-ce que ce sable a de mauvaises conséquences sur nos cultures?
Alors, à mon avis, je suis pas une grande experte du désert du Sahara. Je préfère y aller que de le voir venir chez nous. Hein. C'est beaucoup plus agréable. Mais je ne pense pas que ça ait des conséquences. En plus, nos cultures ne sont pas en place. Et puis, finalement, il y en a pas eu chez nous beaucoup. Peut-être dans d'autres régions de la Suisse, il y a eu plus. Chez nous, il n'y a pas eu beaucoup. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui a des conséquences incroyables. Par contre, si on aurait eu, par exemple, à l'extérieur, mais ce qui n'était pas le cas, mais par exemple, des plantes tels que des citronniers ou des plantes d'été sur nos terrasses, il aurait été bon de les nettoyer après, de leur passer un petit coup de jet ou de rafraîchir les feuilles, pas qu'elles s'étouffent, parce que ça fait quand même une couche sur les plantes.
Une jolie petite couche jaune. Et sinon, Cathieu, on fait quoi ce week-end au jardin? C'est le dernier jour de l'hiver.
Oui, alors là, on peut commencer. Alors attention, hein, ne soyez pas trop pressés pour mettre des plantes dans votre jardin potager. Là, on parle uniquement de potager. Il faut préparer le potager, ça veut dire que maintenant on pourra vraiment commencer de retourner la terre, d'y mettre un petit peu d'engrais, évidemment le plus naturel possible, de faire des jolis carrés ou des jolies parts de gâteau. On en a parlé il y a quelques semaines du jardin circulaire. Donc en fait, on va vraiment préparer la place, affiner la terre de manière à ce que quand on arrivera avec nos plantons ou quand on arrivera avec nos semis, on puisse le faire directement. Parce que, en fait, le potager, c'est un peu ça le secret. Il faut être prêt. Quand le beau temps est là, vu que chez nous, c'est toujours très aléatoire, il faut pouvoir y aller tout de suite.
Merci beaucoup, Cathieu. Et vous êtes là jusqu'à 8 heures pour répondre aux questions de nos auditeurs et des questions que vous pouvez poser. Et on attend avec impatience vos coups de fil au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Vous pouvez également le faire par message. Vous tapez jardin, un espace, votre question. Vous nous envoyez ce SMS au 939 ou vous pouvez également remplir le formulaire qui est disponible sur notre site. Là, vous allez sous l'onglet émission questions aux jardinières avec la possibilité d'y joindre une photo.
On se retrouve dans quelques minutes et Cathieu nous expliquera qui sont les auxiliaires utiles pour votre potager et comment les attirer dans le jardin.
7h, 8h, les jardinières.
Pour avoir un potager en bonne santé, il existe des aides naturelles précieuses, les auxiliaires. Cathieu Racine, vous êtes jardinière à Delémont et vous êtes venue nous parler justement des auxiliaires utiles au potager. Alors, pour commencer, dites-nous, qu'est-ce qu'un insecte auxiliaire ?
Alors, un insecte auxiliaire, c'est un insecte qui se trouvera dans notre jardin ou qu'on amènera dans notre jardin, on en parlera après, qui sera un ennemi naturel des ravageurs qu'on pourrait trouver sur nos cultures ou sur nos plantes ornementales ou diverses plantes. En général, on est plutôt content de les avoir quand on parle de nouveau de potager, parce que quand on a des ravageurs sur le potager, ben évidemment, ça met en danger nos récoltes et puis c'est dommage. Donc, on utilisera, grâce à cet auxiliaire, beaucoup moins ou plus du tout de produits toxiques. Donc, c'est super intéressant. Et puis, ça nous permettra aussi, on le verra plus tard, d'avoir ce dont je parle à chaque fois, en fait, une souplesse d'esprit dans notre jardin. Parce que ça va être un jardin qui sera beaucoup moins structuré ou qu'on va structurer, mais qui paraîtra très, très naturel. Donc, moi, j'aime aussi bien cet aspect-là.
Mais il va faire quoi concrètement cet auxiliaire dans notre potager ?
Alors, il va se nourrir, cet insecte qui est un auxiliaire, va se nourrir d'autres insectes que nous ne voulons pas dans notre potager. Donc en fait, ça sera vraiment le grand prédateur des petites bestioles qu'on ne veut pas voir sur nos cultures.
C'est un peu la guerre du potager en fait.
C'est ça.
Ces insectes sont très utiles. Comment on fait pour les attirer dans son potager pour en profiter ? On peut aller les voler chez le voisin par exemple ?
Alors on peut, on peut pas aller les voler, on peut aller les demander par exemple, mais c'est vrai qu'on peut voir certains insectes qui sont chez le voisin, qui lui n'aura pas besoin, alors on peut aller éventuellement un petit peu en prendre et puis essayer de les implanter dans son propre jardin. Après, en fait, il faudra créer un environnement pour que cet insecte ait envie de venir ou de rester chez nous. On parlera des insectes après, mais par exemple, il faudra mettre beaucoup de fleurs ou des plantes mellifères. Donc, les plantes mellifères, c'est celles qui permettent de produire du nectar par certains insectes. On pourra aussi installer des hôtels insectes en assez grande quantité quand même. Je pense que tout le monde a déjà vu ça dans les commerces. On peut les acheter ou alors, si on a les enfants, on peut les fabriquer soi-même. Ça, c'est sympa. Donc, ça sera des petites cabanes où les insectes viendront soit pondre ou hiberner dans notre jardin. Donc, ça sera pour elle, en fait, un abri. Et puis, on a une autre façon de faire pour les gens un peu plus pressés ou qui ont un peu moins de temps. On peut acheter des larves en commerce, dans beaucoup de commerces maintenant même de la région qui ne sont pas forcément des commerces spécialisés. Et puis, on peut aussi créer un environnement, par contre, par exemple, semer une prairie fleurie, pardon. Et puis là, on attirera les ravageurs, par exemple, le puceron. Adore les prairies fleuries. Donc, on pourra faire, dans un coin opposé de son terrain, une prairie fleurie, et les pucerons, au lieu d'aller sur les légumes, une grande partie ira dans la prairie fleurie. Donc, c'est une façon de faire.
Merci beaucoup, Katiou. Nous avons sélectionné quelques auxiliaires les plus connus. On va s'arrêter quelques instants sur la coccinelle. En plus d'être jolie et de porter bonheur, elle sera très utile dans notre jardin. Mais quel est son rôle, homme?
Alors la coccinelle adore le puceron, et le puceron c'est le ravageur le plus embêtant dans nos régions. Donc la coccinelle, elle se nourrira vraiment essentiellement du puceron, elle peut en manger jusqu'à une cinquantaine par jour. Et puis on en a assez facilement autour de nos maisons, mais dans le cas où on n'en aurait pas, on peut planter par exemple les achillées ou les tanaises. Ce sont deux fleurs où la coccinelle adore pondre. Donc en fait, c'est ça dont je vous parlais avant. En fait, il faut créer un écosystème où les ravageurs, les auxiliaires, excusez-moi, viendront s'installer chez nous. Donc là, on va planter par exemple l'achillée ou la tanaise. Et la coccinelle adore aller pondre là. Donc, ça sera pour nous déjà une bonne alliée si elle vient pondre chez nous, parce que les éclosions auront lieu autour de notre potager ou autour de notre maison. Et elle aime aussi beaucoup se réfugier sous les écorces qui sont très rugueuses en hiver. Donc, d'avoir des arbres qui ont des grosses écorces. Donc, il faut du vivant. Hein. On ne peut pas mettre des bouts d'écorce dans son jardin. Ça ne l'intéresse pas. Mais d'avoir aussi beaucoup d'arbres, par exemple des fruitiers autour de la maison, fait que la coccinelle va venir hiberner sous ces écorces. Donc voilà.
Et puis il y a d'autres, il n'y a pas que la coccinelle, il y en a d'autres, des insectes auxiliaires utiles au potager?
Oui, il y en a beaucoup, beaucoup. Celles qu'on déteste, qu'on a tous horreur sur nos terrasses pendant qu'on mange, c'est la guêpe. La guêpe qui nous embête, en fait, elle est super utile. Parce que c'est le prédateur, le plus grand prédateur de plus de variétés d'insectes. Elle se nourrit, en fait, d'insectes. Et puis la guêpe, pour qu'elle ne nous embête pas là où nous on se tient, il faut planter beaucoup de plantes mellifères, parce qu'en fait elle est très attirée par les plantes mellifères. Pour vivre, elle a besoin d'insectes et de nectar. Donc elle va aller sur les plantes mellifères, d'où on parlait par exemple de la prairie fleurie. Encore une fois, elle est utile, la prairie fleurie. Et puis on pourra aussi mettre comme plante mellifère, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que c'est, par exemple comme les camomilles, qui nous serviront aussi après pour faire des tisanes, de la menthe aussi, quand elle fleurit.
Pour faire des mojitos,
ouais, parce qu'on ne va pas faire que des tisanes. Les tisanes, c'est pour le lendemain des mojitos.
Voilà.
Le fenouil, par exemple, les tagettes, etc. Donc, vous remarquerez que c'est toutes des plantes qui sont très, très odorantes. En fait, la guêpe est très attirée par ce qui est odorant. C'est aussi pour ça qu'elle adore nos assiettes en particulier. Mmh. Et puis, ce qui est très important, les petites guêpes, là, qui nous tournent autour de la tête, qui sont absolument inoffensives, mais qui volent très vite. Celles-là, elles sont super intéressantes parce qu'elles vont pondre leurs œufs dans les pucerons. Et elles vont pondre leurs œufs dans les chenilles. Donc, en fait, c'est un super prédateur aussi.
Il y a les prédateurs qui sont dans les airs et puis il y a ceux qui travaillent sous terre, comme les vers de terre. Est-ce qu'il est important d'avoir des vers de terre dans son jardin?
Alors oui, ça ne sera pas un prédateur, par contre, mais ça sera un très, très bon allié parce que, en fait, lui, il va faire plein de choses dans notre sol. Il va faire un sol fertile grâce à ses déjections. Donc ça, c'est très, très important. Ça nous évite de nouveau de faire des apports peut-être chimiques d'engrais. Il va drainer parce qu'il va faire des galeries. Donc, automatiquement, il va creuser des tout plein de galeries. Il en creuse. On ne se rend même pas compte les galeries qu'il y a là-dessous, mais ça va permettre à l'eau, quand il pleut, on a quelques belles arrosées chaque année. Donc, ça permet à l'eau aussi de descendre dans le sol. Tous les débris verts qu'on a sur le sol, ben, en sortant et rentrant dans la terre, il va les décomposer et les amener sous terre. Donc, c'est très intéressant aussi. Et puis, en plus, il rajeunit le sol parce qu'il peut descendre jusqu'à 3 mètres de profondeur. Et en fait, il va faire tourner la terre. La terre du sol profond, il va la ramener en surface. Et en fait, ça rajeunit tout le temps le sol. Donc, le ver de terre, ne les enlevez pas par pitié. Ils sont très, très bons pour nos sols. Très bons.
On va les laisser tranquilles. Merci, Katiou. Ce matin, nous vous parlons des auxiliaires utiles au potager. Alors, si on a parlé un peu des insectes, certains mammifères ont aussi leur place au potager. On en parle dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, en compagnie de Katiou Racine, jardinière à Delémont, on s'intéresse aux petites bêtes qui travaillent pour le bien de notre potager. Si bon nombre d'insectes sont utiles, comme on en a parlé tout à l'heure, la coccinelle, la guêpe et d'autres encore, il ne faut pas oublier les animaux plus gros. Et je ne parle pas de mon mari, comme certains mammifères ou batraciens. Pardon, c'était trop facile. Non, mais c'était trop facile. Je parle bien de mammifères et de batraciens. Et certainement, le plus connu, Katiou, c'est le hérisson. On aimerait tous avoir un hérisson dans son jardin. C'est possible de les faire venir, comme faire venir une coccinelle, par exemple ?
Oui, 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 c'est très facile. Il faut simplement, encore une fois, laisser un petit peu la nature envahir notre jardin. Donc, on va devoir un petit peu reproduire l'environnement d'une mini-forêt, à quelque part. Donc, on va soit avoir à planter une petite haie, qui sera assez basse, parce que les hérissons aiment bien se cacher, donc ils iront volontiers sous la haie. On va leur faire des abris aussi, qu'on peut construire nous-mêmes pour qu'ils puissent hiberner, pour qu'ils restent chez nous, évidemment, sur notre parcelle. On va reproduire aussi un jardin naturel avec des herbes assez hautes afin qu'ils ne se sentent pas en danger quand ils se déplacent. Après, c'est un animal nocturne, hein, mais enfin, il se sentira quand même beaucoup, beaucoup plus en sécurité dans des herbes assez hautes. Et on va surtout arrêter de mettre des produits phytosanitaires, chimiques, des anti-limaces et des choses comme ça. Il faut vraiment arrêter avec ces produits chimiques, sinon on n'a absolument rien qui va arriver dans notre jardin car on peut l'empoisonner. Et puis, il ne faut pas oublier de faire des passages à hérissons, parce que si vous avez une maison qui est super bien clôturée, ben le hérisson ne pourra pas venir chez vous. Vous aurez beau mettre en place tout ce que vous voulez, il faut lui faire un petit passage. 10 cm suffisent amplement dans la clôture, de manière à ce qu'il puisse venir sur votre terrain et y rester. Et puis, il faudra aussi qu'il ait de l'eau, donc un petit point d'eau, une écuelle. En général, autour d'une maison, il y a volontiers un chat ou un chien, donc ça fera très bien l'affaire. Et puis, il faut faire très attention aux gens qui ont des piscines. Couvrez vos piscines la nuit parce que les hérissons tombent dans l'eau et se noient. Ils n'ont aucun moyen de ressortir, donc c'est vraiment dommage. Et je pense que c'est hyper désagréable de se réveiller le matin, de trouver un hérisson dans sa piscine. Et puis, ce dont ils raffolent, ce sont les croquettes pour chats.
Ah voilà, alors, c'est ça que j'allais vous demander, voilà, justement, Katiou, oui. Parce que j'en ai eu un le week-end dernier qui est venu me dire bonjour le matin sur ma terrasse. Et je ne savais pas quoi lui donner à manger parce que là, si je ne me trompe pas, ils sortent d'hibernation normalement.
Exactement, exactement. Alors, les croquettes pour chats, ce sont leurs préférés. Après, l'année passée, moi j'en ai eu un très très beau autour de la maison qui allait manger dans la gamelle du chien. Donc visiblement, il adorait les croquettes seniors. C'était peut-être un hérisson un peu plus âgé. Et puis sinon, il existe dans le commerce aussi de la nourriture exprès pour les hérissons. Mais ils ne sont pas très difficiles.
Et puis les hérissons, on en avait parlé avec une spécialiste des hérissons chez les jardinières. Une émission que vous pouvez réécouter en tout temps, en podcast, sur la page des jardinières. On va faire une pause musicale et inforoute. On va revenir encore sur ces auxiliaires utiles parce qu'il y en a d'autres encore, comme la taupe ou encore les grenouilles et les crapauds. Ça nous intéresse de savoir comment les avoir chez nous. À tout de suite, on se retrouve dans quelques minutes.
7h, 8h. Les jardinières.
Nous sommes aux portes du printemps, le jardin se réveille un peu comme nous. Les jardinières sont là pour répondre à vos questions jusqu'à 8h et c'est Katiou Racine, jardinière à Delémont, qui est là pour vous ce matin.
Et on attend vos questions jusqu'à 8h par téléphone au 0900 170 20 20 pour 36 centimes la minute et la chance de pouvoir parler directement à notre professionnel. Vous pouvez également le faire par SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question. Vous nous envoyez ce message au 939 ou encore, dernière possibilité, par le formulaire qui est disponible sur notre site internet sous l'onglet émissions questions aux jardinières avec la possibilité de joindre une photo.
Catu, en première partie d'émission, nous avons parlé des auxiliaires utiles dans le potager. On va rester encore un petit moment sur ce thème. On a parlé des hérissons et on va parler maintenant des taupes. On pourrait les qualifier d'auxiliaires controversés. La taupe, c'est un véritable cauchemar pour certains, surtout si vous avez une belle pelouse, mais c'est quand même une véritable alliée.
Oui, c'est vrai que ça peut, on va dire ça comme ça.
Je ne vous sens pas convaincu, Catiou.
Alors, ça dépend un petit peu la grandeur du terrain qu'on a, ça dépend où on se trouve, ça dépend ce qu'on y fait sur notre terrain. C'est sûr que si on a une jolie petite maison avec un petit terrain et puis un petit gazon, un petit potager, tout est petit, tout est mignon, et puis que vous avez une taupe qui plante son domicile chez vous, ça va pas tellement nous faire rire. Parce qu'en fait, elle pense pas à faire mal, hein. Elle vit juste à une place où elle se sent bien. Et en fait, elle va labourer notre sol et elle va de temps en temps nous faire des jolis monticules de terre. Et le problème qu'il y a, c'est que ça se reproduit très 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 vite et chaque taupe refait des monticules de terre. Donc on va se retrouver avec un joli paysage de volcan miniature dans notre jardin. Donc voilà, quand on est dans une petite maison comme ça, c'est pas le top. Par contre, si on a un grand verger ou si on a un terrain peut-être où on cultive pas forcément dessus et on pense cultiver plus tard, la taupe aère notre sol, donc c'est très important. Et à savoir que c'est une carnivore. Donc en fait, elle va manger tout ce qui est petits insectes qui est dans le sol, par exemple les larves de hanneton, qui est un véritable cauchemar pour les sols. Donc elle va se nourrir des larves de hanneton, elle adore croquer une limace, et elle adore aussi les vers de terre, donc elle va quand même nous rendre service dans un sol, mais pas autour d'une maison.
Donc, si on vous comprend bien, Catiou, il faudrait avoir une taupe, mais la dresser pour qu'elle fasse des trous seulement où on a envie, quoi.
Exactement, ouais, exactement.
Il y a également les grenouilles et les crapauds. Est-ce que pour les batraciens, il faut nécessairement mettre en place un étang ?
Alors, ils n'ont pas besoin d'un étang quand ils sont adultes. Quand ils sont adultes, ils ont besoin d'un endroit humide et frais. Par exemple, un tas de pierres, un tas de tuiles, des vieilles planches. Ça peut arriver assez régulièrement de soulever une planche et puis de trouver une grenouille ou un autre batracien dessous. Elles adorent les herbes hautes. En fait, on revient toujours, pour ceux qui ont bien écouté depuis le début, on revient toujours à la même chose. On doit reproduire l'habitat naturel de l'auxiliaire ou de l'insecte ou du batracien ou du mammifère qu'on veut attirer dans son jardin. Donc il faut vraiment réfléchir quand on veut mettre ça en place. Ok, dans la nature, où est-ce que je les trouve ? Où est-ce que je les vois ? Il faut absolument reproduire ça. Donc pour les batraciens adultes, ils ont besoin de ça. Par contre, si on veut les garder, si on veut qu'elles se reproduisent chez nous, on ne va pas être envahis, il ne faut pas avoir peur. Il faudra avoir un point d'eau parce qu'elles se reproduisent dans l'eau. Et les têtards, on n'a jamais vu des œufs de têtards sous une planche. Donc il faut vraiment un point d'eau, sinon il n'y a pas de reproduction. Et puis, ce qui est bien aussi, juste un petit détail, pour ceux qui n'aiment pas les moustiques, moi j'en connais un particulièrement qui vit avec moi, les grenouilles, ça mange les moustiques. Donc, c'est très utile d'avoir des grenouilles dans son jardin.
Catiou, on pourrait conclure en disant qu'il n'y a ni nuisible finalement, ni auxiliaire, mais que chaque animal ou plante joue un rôle ou a un rôle à jouer dans son jardin potager.
Oui. Mais c'est toujours une question de quantité. Si on a trop de ravageurs, ça ne va pas. Si on a trop d'auxiliaires, ça ne va pas. Donc, il faut toujours être raisonnable dans les quantités de ce qu'on veut apporter, de ce qu'on veut aménager, avec modération.
Merci beaucoup, Catiou, pour tous ces auxiliaires et tous ces conseils. Dans quelques instants, vous restez bien sûr avec nous, Catiou, jusqu'à 8h pour répondre aux questions de nos auditeurs. Ça arrive d'ici quelques instants.
7h, 8h, Les Jardinières.
Les Jardinières, c'est votre émission Jardinage du samedi matin. Où vous pouvez poser vos questions directement à notre spécialiste. Et ce matin, c'est Catiou Racine, jardinière à Delémont, qui répond à vos questions.
Des questions que Monique n'a pas attendu à poser. Elle nous a appelé en composant le 0900 170 20 20. Bonjour Monique, comment allez-vous ?
Bonjour.
Votre question pour Catiou ?
Alors, je réitère ma question. Merci de m'avoir rappelé. J'ai un balcon sur lequel j'ai passablement de plantes et notamment des petits arbustes, mais dans des pots séparés, individuels. Et j'ai trois petits arbustes qui me questionnent. Ils sont un peu serrés dans leurs pots. Il y a deux hibiscus qui viennent de dehors, qu'un ami m'avait offert. Et puis, un petit merisier sauvage que j'avais pris dans un tas, lui, à l'époque. Et j'avais envie de les rempoter, mais j'avais entendu qu'on rempotait plutôt ces arbustes en automne. Est-ce qu'il est possible de le faire maintenant?
Alors, bonjour Monique.
Bonjour madame, merci beaucoup pour votre émission.
Avec plaisir. S'ils sont encore pas trop en bourgeon ou s'ils n'ont pas trop démarré, vous pouvez encore le faire. Mais ça vient quand même un petit peu tard là. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment très très serrés dans ce pot ou est-ce qu'ils peuvent passer encore une année? Là est la question.
Ah, ils étaient déjà un peu serrés, mais je me suis déjà posé la question l'année passée, puis j'ai loupé l'automne.
Oui, oui. Alors c'est vrai que c'est bien de les faire.
Le merisier, il met les bourgeons qui commencent d'éclater.
D'accord.
Mais les deux hibiscus, pas du tout.
Ok. Alors on pourrait encore le faire, mais avec beaucoup de précautions. Ce qu'il y a, c'est que quand ils commencent de démarrer, comme ça, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie, pour se mettre en feuilles, en fleurs. Et puis, si on les rempote et puis qu'on les brusque un peu, on leur prend encore une fois de l'énergie par le bas. Donc ça veut dire qu'ils ont besoin de l'énergie en haut, ils ont besoin de l'énergie en bas.
Oui.
Et puis des fois, ça les met un petit peu en faiblesse, en état de faiblesse, exactement, oui. Alors, vous pouvez quand même le faire, mais très, très rapidement. Et puis, privilégiez vraiment un bon drainage dans le fond du pot, de manière à ce que les racines puissent vite repartir. Un bon substrat, un bon engrais naturel, comme de la raclure de corne ou ce que vous avez, si vous avez quelque chose sous la main. Et puis, vous pouvez y aller. Mais il faut vraiment le faire encore cette semaine. C'est le dernier moment.
Alors, c'est très gentil.
Voilà.
Je vais tenter l'affaire et puis, à la limite, peut-être que le petit merisier, j'attendrai puisqu'il est déjà en bourgeon éclaté.
Voilà.
Et puis, je vais essayer sur
les hibiscus.
Ou les deux hibiscus.
Ouais. Mmh.
Bon, du coup, vous avez un bon planning pour le week-end, Monique.
Merci beaucoup. Ils annoncent du beau. C'est pour ça que je voulais me décider.
Et vous avez bien fait. Au revoir. Bonne journée.
Bon week-end. Bonne fin d'émission. Merci pour tout.
Merci. Katiou, on a reçu une question assez longue pour un débutant en jardinage, on peut dire. Alors, je vais vous lire toute cette longue question et essayer d'y répondre point par point. Bonjour, je voudrais savoir comment débuter un jardin potager. Là, j'ai un terrain avec de l'herbe. L'année passée, il y avait des moutons dessus et là, je voudrais démarrer un jardin potager. Comment faut-il procéder? Est-ce qu'il faut une machine pour retourner la terre? Est-ce que je dois ajouter du fumier? Si oui, combien de temps il faudrait le laisser avant de planter, à quelle période il faudrait faire ça. J'aimerais tout savoir. Voilà. Alors peut-être
on pourrait commencer par le début.
On va faire un livre.
Voilà. On va commencer par le début. On a une prairie qui a été broutée l'année passée par des moutons. On commence par quoi?
Alors, on va pas y mettre d'engrais, parce que s'il y a eu des moutons, il n'y a absolument pas besoin de faire un apport d'engrais. Donc ça, c'est déjà une réponse à une des questions. Maintenant, c'est un petit peu... Moi, je privilégierais en fait le décapage manuel, parce que dessus, évidemment, il y a de l'herbe, il faut enlever cette herbe. Ce qui se fait régulièrement, c'est de traiter avec des produits phyto. Ça va vite, mais j'aime pas ça du tout, parce qu'en fait, on a une belle prairie naturelle, puis on va y mettre quelque chose qui est pas naturel du tout dessus. Donc, si c'est pas un trop grand potager que cette personne voudrait faire, l'idéal, ça serait de décaper le dessus à la main, c'est-à-dire avec une bêche. Ensuite, on peut aussi retourner, alors on peut avoir un petit motoculteur, ça facilite quand même la tâche. Après, il y a des personnes qui aiment bien faire ça à la main, donc on peut très bien retourner à la main. Il faut labourer, évidemment, puisque c'est un terrain qui n'a jamais été travaillé au niveau des cultures potagères. Et ensuite, on va, comme on l'a dit en début d'émission, affiner le dessus et puis on pourra commencer de planter nos plantons à la début mai ou de faire nos semis. Moi, je privilégie un petit peu les seins de glace. Mon grand-papa faisait comme ça quand j'étais petite et il avait un très, très beau jardin. Donc oui, on peut très bien faire tout ça maintenant, mais c'est du travail. Et surtout, ne mettez pas de produits phyto. Ça serait vraiment dommage.
Katiou, si cette personne se met maintenant au travail, commence à retirer les herbes, labourer la terre, elle peut déjà imaginer pouvoir semer cette année et avoir déjà une récolte ?
Bien sûr, aucun problème. En fait, la terre, elle est prête. Elle est prête à accueillir toutes nos petites plantes. C'est juste à nous de la rendre vraiment fine, de bien labourer pour que ça draine bien. Évidemment, quand il pleut, que l'eau puisse descendre dans les racines et ne parte pas ailleurs, parce que sinon, on devra arroser malgré qu'il pleuve. En fait, c'est à nous de préparer ça, mais cette année, bien sûr, le terrain, il est prêt à accueillir nos plantes.
Et puis pour cette personne, si elle veut des conseils et puis si elle a envie d'avoir un jardin différent, on l'invite à aller sur notre site internet réécouter l'émission spéciale sur les jardins circulaires. Tiens, Katiou, ça vous fera plaisir.
Ouais, vraiment.
Dans quelques instants, la suite et la fin des jardinières. Restez avec nous, on a encore 2-3 choses à vous raconter.
7h, 8h, les jardinières.
7h53 chez les jardinières, il est presque l'heure.
Et partout ailleurs.
Oui, c'est vrai. Non, pas partout. Presque l'heure de se quitter. Mais avant de vous laisser filer, Katiou, on a reçu une question de Brigitte des Breleux qui nous parle de son bananier. Elle a reçu une pousse de bananier il y a 2 ans déjà. Il lui fait des feuilles jaunes, mais aussi des repousses. Pensez-vous qu'il faut qu'elle change le pot ? Elle vous remercie de votre réponse. Alors, elle a envoyé une photo où on voit. Je vais vous la laisser décrire, tiens, cette photo.
Alors moi j'y vois un magnifique bananier, il est vraiment très 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 beau, il n'y a pas du tout à s'inquiéter, je vois qu'il y a une feuille jaune, bon, c'est un grand bananier, hein, parce que quand on pense une pousse on pourrait penser quelque chose de petit, on voit juste une feuille jaune à l'arrière de la photo et un peu sur les feuilles du bas. En fait, Brigitte, le pot devient beaucoup trop petit. Donc, en fait, le bananier, là, il a besoin de rempotage
d'espace,
un rempotage assez urgent. Mais il va très bien, il n'y a pas de souci. Et les feuilles jaunes, c'est normal. En fait, vu qu'il va pousser en hauteur, automatiquement, si on va dans les pays où il y a des bananiers, en fait, ils ont un tronc. Et le fait de faire des feuilles jaunes en bas, quand elle sera complètement jaune, enfin complètement sèche, on va la couper et en fait le bananier va pousser en hauteur et se former un petit tronc. Donc qu'il y ait quelques feuilles jaunes en bas, c'est absolument normal. Ne changez rien à la façon dont vous le soignez, il faut juste lui mettre une chambre un peu plus grande.
Merci beaucoup Katiou et puis Brigitte, voilà, vous avez tous les bons conseils pour vous occuper de votre bananier. C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Katiou, dites-nous rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire au jardin ce week-end ?
Alors, comme j'ai dit au début d'émission, il faut retourner, labourer, faire des apports de fumure, ne pas oublier de bien s'hydrater entre deux, hein, je ne citerai pas de mojito ou de tisane. Et puis oui, on peut vraiment y aller dans le potager. Et puis si vous avez des plantes ornementales, eh ben, n'oubliez pas de faire les derniers nettoyages. Enlever ce qui est sec, enlever peut-être les anciennes fleurs. Tout commence de se réveiller là, donc c'est dommage que la pousse soit freinée par des vieilles choses qui sont sur les arbres et puis qui les empêcheraient de se développer correctement.
Merci beaucoup Katiou en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. On vous rappelle que vous êtes jardinière à Delémont et on se réjouit de vous retrouver très prochainement parmi les jardinières.
Moi
vous souhaite
aussi
un très bon week-end et on vous dit à très bientôt.
Merci pareillement.
Merci beaucoup Katiou. Samedi prochain c'est Jean-Pierre Ribaud, paysagiste à Queuve, qui viendra nous parler végétaux. D'ici là, et si vous avez des questions jardinage, vous faites-les nous parvenir par SMS, vous tapez jardin, un espace et votre question ou via le formulaire disponible sur notre site. Sous l'onglet questions jardinières, et vous avez même la possibilité d'y joindre une photo. Très bon week-end, Raphaël.
Bon week-end, Mylène, et bon week-end tout le monde.
Et bon début de printemps à toutes et à tous. Rendez-vous samedi prochain dès 7h.
7h, 8h, les jardinières.